driver of its economy.
L'entrepreneur parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Et bienvenue à cette émission des Échos de l'innovation, une émission de débat et de culture scientifique animée par les étudiants du cours de sciences et débats publics de l'Université de technologie de Compiègne. Nous sommes aujourd'hui quatre étudiants et étudiantes, donc moi-même Zoé.
Bonjour, moi c'est Noah.
Bonjour, moi c'est Célestine.
Et bonjour, moi c'est Camille.
Donc nous sommes quatre étudiants et étudiantes pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, en tant que consommateurs et consommatrices, le Nutri-Score. Dans le cadre de notre cours sur les liens entre science et technique et société, nous avons exploré en profondeur ce système d'étiquetage nutritionnel simplifié. Nous avons cherché à comprendre les enjeux de santé publique qui lui sont associés, mais aussi les tensions entre les différents acteurs, industrie, agroalimentaire, institutions publiques et citoyens. Car derrière ce petit logo coloré se cache une véritable bataille d'idées, de chiffres et d'intérêts. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le Nutri-Score et à quoi ressemble-t-il? À quoi sert-il? Camille, peux-tu nous éclairer sur ce point?
Bien sûr. Donc le Nutri-Score, il a été développé en 2017 par l'Agence nationale santé publique France à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé. Il a ensuite été adopté de façon volontaire dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ou encore l'Espagne. Le Nutri-Score avait comme principale fonction de fournir des indications sur les produits alimentaires aux clients de façon simple et concise. Donc ce dernier pouvait ainsi mieux comprendre les valeurs et les apports nutritionnels des produits. Le Nutri-Score est d'ailleurs très largement apprécié du public en raison de la difficulté éventuelle à comprendre certaines données sur les produits. Par manque de temps également, on ne s'attarde que trop rarement sur les valeurs nutritionnelles des produits, alors qu'il est très pertinent de vérifier le taux de protéines, la teneur en sucre, en sel, etc. Ainsi, le Nutri-Score permet de faciliter la compréhension des informations nutritionnelles, et donc de nous aider à faire des choix plus éclairés dans nos modes de consommation. Ce système se présente ainsi comme un levier qui guide les consommateurs vers de meilleurs choix alimentaires. Beaucoup sont familiers à ce concept de Nutri-Score et l'utilisent au quotidien. Il s'agit effectivement d'un logo apposé en face avant des emballages et qui est basé sur une échelle de 5 couleurs, donc du vert foncé au orange, associé en plus à des lettres allant de A à E pour optimiser son accessibilité et sa compréhension par le consommateur. Il faut savoir qu'il existe 4 formules différentes pour toutes les catégories alimentaires, à savoir les matières grasses, le fromage, les boissons et enfin les autres aliments. Donc ces 4 formules, elles permettent de préciser le calcul du Nutri-Score. Donc il est essentiel de noter que le choix de recourir au Nutri-Score par les entreprises, il est vraiment basé sur du volontariat, c'est important de le préciser, et il n'est absolument pas obligatoire pour elles de l'intégrer à leur emballage. Ainsi, cet objectif de santé publique conduit tout de même à des conflits d'ordre politique et économique. Ce système il peut en effet remettre en cause l'image de nombreuses marques en influençant massivement la population dans leur choix de consommation. Donc en effet, un produit avec un Nutri-Score faible aura tendance à être évité par les clients, ce qui peut avoir de lourdes conséquences pour la marque concernée. C'est pourquoi le déploiement du Nutri-Score soulève des questions d'équilibre entre santé publique, croissance économique et de levée de l'ignorance des consommateurs et consommatrices pour nous rendre tous éclairés et acteurs de notre santé et de notre assiette. Nous reviendrons plus en détail sur ces sujets plus tard dans l'émission d'ailleurs. On s'interrogera par exemple sur qui décide des normes techniques qui doivent s'imposer à tous, mettant en évidence le caractère stratégique et politique du Nutri-Score, alors qu'il s'agissait à l'origine d'un simple outil technique basé sur des données scientifiques supposées neutres.
Merci beaucoup Camille. En effet, nous reviendrons plus tard sur ces aspects. Mais pour bien les comprendre, encore faut-il savoir comment le Nutri-Score est calculé. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà croisé un Nutri-Score au supermarché et s'en sont servis pour choisir entre deux produits. Mais avez-vous déjà été surpris par la note attribuée à un aliment en particulier? En effet, même après avoir compris que vert A égale bon et E rouge est assez mauvais, combien d'entre vous ont déjà été étonnés du score d'un produit en particulier comme un yaourt nature avec un score E, c'est-à-dire le plus mauvais? Alors pour tester vos réflexes, on vous propose un petit quiz. On vous présente plusieurs produits du quotidien et vous devez deviner leur Nutri-Score.
Bonjour Solène.
Bonjour.
Donc vous êtes étudiante dans une école d'ingénieurs à l'UTC et vous êtes là pour répondre au quiz sur le Nutri-Score.
Donc bah c'est parti.
Ok, ça marche.
Alors, tout d'abord, essayez de deviner le Nutri-Score du Coca Zéro, donc celui qui est avec moins de sucre.
Sans sucre. Moi, j'irais un bon petit C.
Oui. Oui, exactement. Ensuite, essayez de deviner le Nutri-Score d'un Roquefort. Il n'y a pas de marque spécifique, mais globalement d'un Roquefort, donc un fromage traditionnel français.
B.
Eh ben, figurez-vous que c'est E, puisqu'il est, certes, il est riche en calcium et en protéines, mais pourtant, il contient potentiellement trop de sel, et donc du coup, ça fait que c'est E.
J'aurais pas cru.
Ensuite, pour le saumon fumé de Norvège.
De Norvège ?
De Norvège, oui.
Si bien de Norvège, moi je dis un B pareil.
Eh ben, il s'avère que c'est E, encore une fois. Pourtant, il est riche en oméga 3, mais pareil, il est perçu comme trop gras et trop salé. Ensuite, pour le Chocapic, les Chocapic Nestlé, vous diriez quoi comme Nutri-Score ?
Chocapic. D.
Presque. C'était de C, le Nutri-Score. On va encore faire quelques petits exemples. Les frites Findus, qui sont des frites surgelées, qui sont à réchauffer au micro-ondes. Vous pensez que c'est quoi comme Nutri-Score ?
D.
C'est A.
Waouh !
Ça vous surprend ?
Ouais.
Nous aussi. On va faire une dernière petite question sur la Monster. Donc c'est une Monster particulière qui s'appelle Energy Ultra. Vous pensez que c'est quoi comme Nutri-Score ?
Monster E.
Ce sera C.
Ce sera C.
Bon, vous avez un score
pas ouf. J'ai bien démarré, mais
qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que vous sentez une incompréhension ?
Oui, notamment pour le saumon. Parce que,
ouais. Vous pensiez que ce serait bien plus équilibré ?
Oui, ouais, mais c'est vrai que c'est gras. Mais
ok, je comprends tout à fait. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
Merci, au revoir.
Donc grâce à ce quiz, on a pu illustrer l'incompréhension qu'on peut ressentir vis-à-vis du Nutri-Score et on peut se poser des questions sur sa légitimité. Et donc bah, merci beaucoup à Solène et Steve d'avoir participé à ce quiz. On a pu voir que bah, c'est pas si simple, même pour les produits les plus familiers.
Nous allons maintenant faire une petite pause musicale de 5 minutes. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission consacrée au Nutri-Score.
De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Ba-da-da-da-da!
les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, la biscotte, les œufs durs et puis les cornichons.
C'était Les Cornichons de Nino Ferrer, une chanson à la fois légère et pleine d'humour qui nous plonge dans l'univers des repas à la française. Un clin d'œil parfait à notre sujet du jour, centré sur l'alimentation et la façon dont elle est représentée, évaluée, voire normée avec des outils comme le Nutri-Score. Vous êtes toujours à l'écoute des Échos de l'innovation sur la radio Graphite que vous pouvez écouter sur 94.9 FM. Célestine, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail comment le Nutri-Score est calculé ?
Alors oui, bien sûr. Donc le Nutri-Score repose sur un algorithme de points. Chaque produit obtient une note globale en fonction de deux types de composantes. Donc il y a les composantes, les éléments négatifs qui font perdre des points, les sucres simples, les acides gras, saturés, le sel et l'énergie, les calories. Il y a également les éléments positifs qui font gagner des points. Donc la teneur en fibres, en protéines, en fruits, en légumes, légumineuses, en grains complets et pour certaines formules, en acides gras insaturés, oméga 3, 6 et 9. Ces points sont ensuite combinés selon la catégorie du produit pour aboutir à un score final transformé en lettres et couleurs.
Camille, tu voulais nous ajouter quelque chose sur les difficultés de compréhension du public du Nutri-Score ?
Oui, tout à fait. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos virales sur les réseaux sociaux qui remettent en question la logique du Nutri-Score. Par exemple, on entend souvent « Comment est-ce possible que des céréales Choc à Pic aient un A alors qu'une huile d'olive vierge extra est notée C ?» D'abord, il faut savoir que le Nutri-Score il a été révisé en 2024. Désormais, ces Choc à Pic ont un score C et l'huile d'olive Bjorg est passée de C à B, par exemple. L'algorithme est devenu plus strict avec les produits sucrés. Mais surtout, cette comparaison est hors sujet. Le Nutri-Score ne permet pas de comparer une huile avec des céréales. L'outil, il est avant tout conçu pour comparer des produits similaires dans une même catégorie ou consommés à la même occasion. C'est indiqué noir sur blanc dans les documents officiels. Autre critique qu'on entend parfois, le Nutri-Score serait un outil créé par les lobbies, pour les lobbies, parfois même qualifié de lobby-score. Et il s'avère que c'est totalement faux. Donc le Nutri-Score, il a été conçu en 2013 par le professeur Serge Ergberg, un épidémiologiste reconnu qui a dirigé pendant 16 ans le programme national Nutrition Santé. Dès son origine, l'outil a été combattu par une partie de l'industrie agroalimentaire, justement parce qu'il risquait de nuire à certains produits. Ergberg raconte ce combat dans son livre d'ailleurs « Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire ». Aujourd'hui encore, ceux qui s'opposent le plus à son déploiement obligatoire sont les industriels, notamment dans les secteurs des produits ultra transformés ou sucrés. D'ailleurs, Danone, donc une marque bien connue, a retiré le Nutri-Score de ses boissons lactées après la révision de 2024 et conteste vivement son obligation sur tous les produits par peur de perdre des parts de marché. Donc oui, le Nutri-Score est imparfait. Il ne prend pas en compte le degré de transformation, les additifs, pesticides ou polluants environnementaux. Mais ce n'est pas un oubli, c'est scientifiquement très difficile à intégrer dans un seul score. Donc les applications privées qui prétendent le faire, donc, comme Yuka par exemple, une application qui a été très populaire il y a quelques années, vont souvent au-delà de ce que la science peut soutenir aujourd'hui, en mélangeant des critères nutritionnels et non nutritionnels, parfois même de manière arbitraire. Donc la vraie question, ce n'est pas « est-ce que le Nutri-Score est parfait ?», mais ce serait plutôt « est-ce qu'il est utile ?». Et la réponse est oui. Il y a 27 études de cohorte en Europe qui ont montré qu'un meilleur score est associé à moins de maladies chroniques. L'OCDE estime qu'une généralisation du Nutri-Score permettrait d'éviter 2 millions de maladies chroniques d'ici 2050. Une trentaine d'études internationales ont confirmé qu'il aide les consommateurs à mieux classer les aliments. Et plus de 20 études ont démontré qu'il améliore la qualité nutritionnelle des achats et pousse les industriels à réformer leurs recettes. Le Nutri-Score n'est donc pas un gadget marketing, c'est un outil de santé publique développé par des scientifiques indépendants avec un seul but, rendre l'information nutritionnelle plus compréhensible pour améliorer notre santé à toutes et à tous.
Merci beaucoup Camille pour ces précisions très importantes. Comme nous l'avons vu, le Nutri-Score a été pensé comme un outil de santé publique. Mais derrière cette apparente simplicité, le Nutri-Score cristallise de nombreux enjeux. Il est critiqué par certains industriels, remis en question par des États européens comme l'Italie et parfois mal compris par les consommateurs et consommatrices eux-mêmes. Noah, notre expert interne, est ici pour nous éclairer sur ce sujet.
Nous allons donc explorer la question suivante. En quoi la mise en œuvre du Nutri-Score, pensée comme un levier de santé publique et de transparence, se heurte-t-elle aux enjeux de démocratie technique ainsi qu'aux intérêts politiques et économiques des industriels ? Pour commencer, intéressons-nous aux stratégies des entreprises agroalimentaires face au Nutri-Score. L'article de Christophe Serra-Malol, publié en 2021 dans Sciences sociales et santé, met en lumière un phénomène frappant, la production active d'ignorance par des industriels. Ce n'est pas simplement qu'ils ne veulent pas du Nutri-Score, ils mettent en place des stratégies visant à neutraliser son impact en instaurant une forme de doute public. Cela passe par des campagnes de lobbying, le financement d'études concurrentes, ou encore la diffusion d'informations floues sur la validité scientifique du Nutri-Score. Serra-Malol parle de connaissances négatives, une forme d'ignorance fabriquée par un simple manque d'information. Ce processus consiste à maintenir une zone grise autour de l'outil, à semer la confusion chez les consommateurs pour éviter des pertes de parts de marché. Prenons l'exemple de Ferrero ou Coca-Cola. Ces entreprises ont soit refusé d'adopter le Nutri-Score, soit tenté de promouvoir des systèmes alternatifs plus favorables à leurs produits. Comme le Nutrinform Battery, soutenu par l'Italie, cette opposition ne repose pas tant sur des arguments scientifiques que sur des intérêts économiques. Le Nutri-Score, en rendant visibles les écarts nutritionnels entre produits concurrents, devient une menace directe pour certains segments industriels. On voit ici que ce logo n'est pas qu'un simple outil d'information, il rend visible des rapports de force économique et c'est précisément ce qui le rend politiquement sensible. Même lorsqu'il est utilisé, le Nutri-Score n'a pas le même effet sur tous les consommateurs. L'étude menée par Nabec, Marette et Darieux en 2019 s'est intéressée à cette question en profondeur. Elle montre que le Nutri-Score est perçu positivement, mais compris de manière inégale selon les profils. Certaines personnes, en particulier celles disposant d'une culture nutritionnelle plus avancée, se fient au Nutri-Score et modifiant leur comportement d'achat en conséquence. Elles sont même prêtes à payer plus cher pour un produit mieux noté. Cela montre l'efficacité de l'outil, mais seulement auprès d'une partie de la population. À l'inverse, d'autres personnes ne perçoivent pas bien l'intérêt de ce logo, voire s'en méfient. Cela peut être lié à un manque d'information, à une confusion entre sain et diététique, ou à une perte de confiance envers les institutions publiques. Certains consommateurs continuent donc de se baser uniquement sur le prix, la marque ou le goût pour faire leur choix. Le paradoxe est frappant. Un outil pensé pour rendre l'information nutritionnelle accessible au plus grand nombre peut, en réalité, creuser les inégalités de santé. Les auteurs parlent d'un effet clivant du Nutri-Score. Il ne suffit pas de rendre l'information visible. Encore faut-il qu'elle soit compréhensible, crédible et mobilisable dans les pratiques quotidiennes. Or, cela suppose une capacité à décrypter les enjeux nutritionnels, mais aussi une possibilité concrète de modifier ses habitudes d'achat, ce qui est loin d'être évident pour tous. Enfin, il est important de s'interroger sur le mode de régulation qui encadre l'usage du Nutri-Score. Aujourd'hui, son adoption est facultative en France comme au niveau européen. Dans leur article « Réguler avec modération », les sociologues David Benamouzig et Aude Boubal analysent cette logique de régulation douce. Leur constat est clair, en laissant aux industriels le choix d'afficher ou non le Nutri-Score, l'État limite la portée de l'outil. Cette approche repose sur l'idée que les consommateurs bien informés orienteront naturellement le marché vers des produits plus sains. Mais dans les faits, cette logique laisse un fort pouvoir aux producteurs qui peuvent retirer le Nutri-Score lorsqu'il leur est défavorable. Ce qu'a fait Danone, par exemple, après un changement d'algorithme défavorable à ses boissons lactées. Ce jeu d'ajustement opportuniste souligne les limites d'un dispositif non contraignant. Tant que le Nutri-Score est facultatif, il n'atteint pas l'universalité nécessaire pour changer durablement les pratiques de production et de consommation. Les auteurs soulignent aussi un point important. En matière de démocratie technique, le Nutri-Score résulte d'un processus de négociation entre scientifiques, agences publiques et industrielles. Mais les consommateurs ont été peu associés à sa construction. Cette distance entre experts et citoyens alimente une forme de méfiance et affaiblit la légitimité du dispositif. En somme, l'État régule, mais avec prudence et parfois au détriment de l'ambition initiale du projet. Le Nutri-Score, à première vue, semble être un exemple de bonne science mise au service du public. Un code simple, visuel, fondé sur des données solides, mais son histoire récente montre qu'un outil, aussi bien conçu soit-il, ne vit pas dans un vide social et politique. Sa mise en œuvre soulève des tensions majeures. D'un côté, les industriels qui produisent de l'ignorance stratégique pour en limiter l'effet. De l'autre, les inégalités sociales et culturelles qui freinent son appropriation. Et enfin, des pouvoirs publics qui hésitent à en faire un outil obligatoire pour ne pas heurter les intérêts économiques. Le Nutri-Score est donc un révélateur, celui de la complexité de nos systèmes alimentaires, mais aussi de la difficulté à démocratiser l'expertise dans un domaine aussi sensible que la santé publique. Il pose une question essentielle. Comment penser des outils techniques qui informent sans exclure, qui éclairent sans manipuler et qui servent l'intérêt général sans céder aux logiques de marché.
Waouh ! Merci beaucoup pour cette intervention qui révèle bien les enjeux politiques, économiques et sociaux qui se cachent derrière le Nutri-Score. On va maintenant faire une petite pause musicale avant de reprendre avec un débat sur le Nutri-Score et les tensions qu'il soulève. Voici Burgers du groupe Les Jones.
Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper?
Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe I'm still hungry since this morning. I need like cheese and baguette.
Fried chicken, not a live chicken. I prefer fried chicken. Fried chicken. Inside my burger, not a raw chicken, because I love fried chicken, fried chicken.
Baby, I just love the taste of the chicken wings.
Merci. C'était Burgers du groupe Le Jones. Donc, un groupe parodique formé par trois humoristes français, Mr. V, Vincent Tirel et Freddy Gladieux. La chanson caricature avec humour les clichés de la nourriture ultra transformée à l'américaine, comme les burgers, tacos, bacon, cheddar, Coca-Cola, tout y passe. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que cette chanson, malgré son ton absurde, a été produite en partenariat avec le groupe Les Produits Laitiers, autrement dit le lobby français des produits laitiers. Leur objectif, créer du contenu décalé pour occuper le terrain médiatique autour des questions de nutrition avec une approche jeune et divertissante. La chanson est drôle, certes, mais elle illustre malgré elle la complexité des rapports entre nutrition, industrie et discours public. Ce partenariat met à la lumière du jour la bataille symbolique autour de l'alimentation entre stratégie industrielle, lobbying, marketing, normes sociales et enjeux de santé publique. Ainsi, l'acte de bien manger devient un véritable champ de tension. Et c'est précisément dans ce contexte que s'inscrit notre sujet du jour. Le Nutri-Score est à première vue un simple logo coloré, et en fait un acteur et au cœur d'un affrontement politique, économique et scientifique. Pensé comme un outil de transparence et de prévention, il fait aussi l'objet de tentatives de récupération, de contournement et de contestation. Célestine est là aujourd'hui pour nous présenter ses échanges avec des personnes pour et contre le Nutri-Score.
Alors oui, je suis allée poser des questions à deux personnes qui ont deux points de vue très différents. Jasmine et Liv, qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions pour cette émission, sur le Nutri-Score. Bonjour Jasmine. Alors aujourd'hui, j'ai quelques petites questions à te poser sur le Nutri-Score. Ma première question, c'est pourquoi utilises-tu le Nutri-Score ?
Alors, parce que je trouve que c'est un outil simple et visuel qui m'aide beaucoup à faire des choix plus sains, surtout quand je fais mes courses assez rapidement.
Et toi, Olivier, est-ce que tu utilises le Nutri-Score ?
Non, parce que je trouve qu'il simplifie un peu trop la réalité nutritionnelle et du coup, ça favorise d'acheter plus de produits ultra transformés.
Alors la question qui est posée à nos invités, elle semble très simple. Pourquoi utiliser ou refuser le Nutri-Score ? Pour Jasmine, c'est un outil rapide. En un coup d'œil, elle peut comparer, trier, choisir. Dans les rayons, ça lui fait gagner du temps. Mais pour Liv, ce système pose problème. Il réduit la nutrition à une couleur et une lettre, sans tenir compte de la qualité des ingrédients, de la transformation ou de l'origine des produits. Au fond, ce débat, il révèle deux visions, celle de l'efficacité et celle de la nuance. Et une question de fond, faut-il faire confiance à un algorithme pour décider de ce qui est bon pour nous ?
Ma deuxième question, c'est penses-tu que le Nutri-Score influence réellement les comportements alimentaires ?
Oui, bien sûr, parce que les études montrent qu'il oriente les consommateurs vers des produits mieux notés.
Et toi, Liv, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, je pense que ça peut influencer dans certains cas, mais ce n'est pas toujours positif. Parfois, ça nous pousse à privilégier des produits qui sont transformés avec... Enfin, Nutri-Score A plutôt que des aliments bruts qui sont non notés.
En d'autres termes, est-ce qu'un petit logo coloré peut vraiment changer ce qu'on met dans notre caddie et donc dans notre corps ? Nos deux invités répondent oui, mais pas pour les mêmes raisons. Le défenseur du Nutri-Score voit en lui un guide utile, un feu vert ou rouge nutritionnel. Il permet de comparer vite et souvent il oriente vers le produit le mieux noté. Mais la critique n'est pas sur l'efficacité. Pour Liv, celle qui est contre le Nutri-Score, le danger, c'est la fausse impression de bien faire. Un produit noté B peut être ultra transformé, alors qu'un aliment plus simple, non noté, sera écarté. Résultat, on croit manger mieux, mais ce n'est pas toujours le cas.
Est-ce que toi, tu as déjà changé un achat grâce au Nutri-Score ?
Oui, assez souvent, parce que je compare souvent deux produits similaires et choisis celui qui est le mieux noté. C'est devenu vraiment un réflexe et ça me fait gagner beaucoup de temps.
Et toi, Liv, du coup, est-ce que tu l'as déjà fait ?
Non, je regarde plutôt la liste des ingrédients et l'origine. Si jamais je vois qu'il y a trop d'additifs, je repose le produit. Je préférerais toujours manger un aliment simple, mais mal noté, plutôt qu'un aliment ultra transformé, mais bien noté.
Alors la troisième question, elle est très concrète. Est-ce que le Nutri-Score influence vraiment nos achats, là, en rayon, au moment de choisir entre deux produits ? Pour Jasmine, celle qui est pour le Nutri-Score, la réponse est oui. Elle dit avoir souvent changé d'avis à la dernière minute en regardant la lettre sur l'emballage. Elle voit le Nutri-Score comme un arbitre objectif, pardon. Un repère simple qui l'aide à décider sans devoir tout analyser. Mais Liv, elle ne s'y fie pas. Pour elle, un produit bien noté mais ultra transformé reste un mauvais choix. Le Nutri-Score peut même, selon elle, masquer la réalité sous une bonne note. Au fond, tout dépend de la confiance qu'on accorde à ce système. Et cette confiance, elle reflète une certaine vision de l'alimentation où les chiffres, sel, sucre, graisse, prennent le pas sur la qualité réelle des produits.
Alors, est-ce que le Nutri-Score favorise-t-il une alimentation équilibrée selon toi ?
Je pense que oui, parce qu'il classe les aliments selon leur teneur en graisse saturée, sucre, fibres ou sel, et ça permet de mieux répartir les apports en général.
Et toi, Liv, c'est quoi ton avis là-dessus ?
Bah, ça donne un peu une illusion d'un bon choix, parce que ça ne donne rien sur la portion consommée ni sur l'équilibre global du repas. Par exemple, manger 3 barres Nutri-Score B dans la journée ne veut pas dire qu'on mange bien.
Alors cette question, elle est essentielle. Est-ce que le Nutri-Score nous aide vraiment à manger équilibré ? Pour son défenseur, donc Jasmine, la réponse est claire. Oui, il repose sur des critères solides conçus pour favoriser les aliments associés à une meilleure santé. Suivre le Nutri-Score au quotidien, c'est, selon lui, réduire les risques de maladies comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires. Mais son opposant tempère cette vision, donc Liv. Pour elle, un aliment mal noté peut être inoffensif s'il est consommé rarement. A l'inverse, un produit noté A peut être consommé en excès, simplement parce qu'il semble sain. Et c'est là que le débat se précise. Le Nutri-Score évalue un produit, alors que l'équilibre alimentaire se construit à l'échelle d'un repas, d'une journée ou même d'un mode de vie. Autrement dit, bien manger, ce n'est pas additionner des bonnes notes, c'est composer un ensemble cohérent, adapté à soi.
Est-ce que tu penses que le Nutri-Score, il est fiable ?
Oui, je pense, parce qu'il repose sur un algorithme scientifique transparent, validé par des nutritionnistes, et il s'appuie surtout sur des critères objectifs.
Et toi, Liv, est-ce que tu penses du coup que le Nutri-Score, il peut être fiable ?
Bah, pas forcément, parce que ça peut être contourné. Je sais que certains produits changent légèrement leurs recettes juste pour améliorer leurs notes.
Alors là, on aborde un point assez crucial, la fiabilité. Un outil n'a de valeur que s'il inspire confiance. Pour Jasmine, qui défend le Nutri-Score, la réponse est assez claire. Oui, c'est fiable. L'algorithme est scientifique, standardisé, identique pour tous les produits. Il n'y a ni marketing, ni manipulation. C'est ce qui en fait, selon elle, un outil sérieux. Mais pour Liv, la fiabilité est plus discutable. Elle ne critique pas l'algorithme, mais la manière dont certains industriels s'en servent. En modifiant légèrement les recettes, en ajoutant un peu de fibres ou en réduisant artificiellement le sucre, ils peuvent faire grimper leur score sans véritable amélioration nutritionnelle. Et c'est là le risque. Si le Nutri-Score devient un levier commercial plus qu'un outil de santé publique, il perd en crédibilité. Or, quand la note ne reflète plus la réalité du produit, la confiance s'effondre.
Mais les produits locaux, artisanaux et non emballés, ils ne sont pas notés. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?
C'est vrai qu'ils ne sont pas notés, mais le Nutri-Score, il s'adresse surtout aux produits transformés qui sont souvent les plus problématiques et où on a besoin de repères.
Et toi, Liv, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet ?
Bah, c'est justement un gros problème parce que les produits non transformés sont souvent meilleurs, mais ils sont souvent exclus. On finit justement par les oublier et au profit des emballages colorés avec des Nutri-Score.
Ici, on touche à un angle mort du Nutri-Score, car au-delà des produits emballés et notés, il existe une grande partie de notre alimentation qui échappe au système. Les fruits et légumes bruts, les produits locaux, artisanaux, vendus en vrac ou sur les marchés. Pour Jasmine, ce n'est pas un problème. Elle estime qu'on n'a pas besoin d'un score sur une pomme ou un fromage fermier. Ces produits sont simples, peu transformés et culturellement perçus comme sains. Pour elle, le Nutri-Score est utile, surtout là où les repères manquent. Mais pour Liv, cette absence est plus gênante. Elle craint qu'en n'étant pas notée, ces produits deviennent invisibles aux yeux des consommateurs. Résultat, on peut finir par choisir un produit industriel bien noté plutôt qu'un produit brut de qualité, simplement parce qu'il n'entre pas dans le système. Et c'est là le paradoxe. Ceux qui font souvent les meilleurs produits pour la santé sont justement ceux que Nutri-Score laisse de côté.
Pour toi, c'est quoi l'alternative au Nutri-Score ?
Alors, il faut le Nutri-Score avec une éducation nutritionnelle, pas forcément une alternative. Je trouve qu'il serait important que tout le monde soit plus renseigné sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension et qu'il n'y ait plus de questions sur le sujet.
Alors pour Liv, la question n'a pas été enregistrée, mais sa réponse était qu'elle elle trouve qu'il faut une approche plus globale, pardon. Donc avec la liste des ingrédients, l'origine des ingrédients et le degré de transformation. Donc ici, le débat sur le Nutri-Score s'ouvre à son avenir. D'un côté, un intervenant favorable, donc Jasmine, souhaite renforcer l'outil avec plus d'éducation nutritionnelle pour mieux comprendre les notes et intégrer les produits dans un repas équilibré. De l'autre, Liv, plus critique, propose d'aller plus loin en créant une fiche d'identité nutritionnelle complète qui inclurait non seulement le score, mais aussi la liste des ingrédients, leur origine, leur transformation et le mode de production. Au final, les deux s'accordent sur un point. Mieux informer le consommateur pour qu'il fasse ses choix en connaissance de cause.
Pour toi, est-ce qu'il faut conserver, améliorer ou supprimer le Nutri-Score ?
Pour moi, il ne fait aucun doute que le Nutri-Score doit être conservé et renforcé. Il ne prétend pas être parfait, c'est sûr, mais c'est le seul outil à ce jour qui permet de comparer rapidement des produits alimentaires sur des critères nutritionnels fiables. Et surtout, il est compréhensible par tous, même ceux qui n'ont pas forcément de connaissances en nutrition.
Et toi, Liv, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus ?
Dans l'absolu, je ne suis pas opposée à l'idée d'un outil nutritionnel. Au contraire, mais le Nutri-Score, dans sa forme actuelle, est beaucoup trop limité parce qu'il réduit notamment la qualité d'un ingrédient à un score simplifié basé sur 100 grammes sans tenir compte de la portion réelle consommée, de la qualité des ingrédients ou du taux de transformation. Résultat, on peut voir des sodas allégés notés A et des huiles de qualité notées D, ce qui brouille complètement le message. Et la question ici, elle n'est pas de supprimer complètement... l'outil nutritionnel, mais de repenser sa structure.
Alors, à la fin du débat, de ces deux questions, les deux avis se dessinent. Jasmine, elle veut le garder et même le renforcer, car il aide beaucoup de consommateurs à mieux comprendre la nutrition, malgré ses imperfections. Liv, elle, qui est contre le Nutri-Score, elle souhaite une refonte profonde pour intégrer plus d'informations sur la qualité, l'origine et la transformation des aliments. Au final, personne ne veut le laisser tel quel, mais tout le monde reconnaît qu'il a changé notre façon de voir la nutrition. La meilleure solution serait donc de le faire évoluer pour qu'il devienne un langage nutritionnel plus complet, juste et accessible à tous.
Merci à Célestine et à nos deux interlocutrices interrogées. On peut donc conclure que le Nutri-Score n'est ni parfait ni utile, c'est un compromis entre une tentative d'agir sur les comportements alimentaires à grande échelle, mais comme tout outil socio-technique, il mérite débat, ajustement et surtout transparence sur ses limites. Chers auditeurs et auditrices, souvenez-vous que bien manger, ce n'est pas suivre un code couleur les yeux fermés, c'est aussi exercer son jugement, s'informer et peut-être débattre autour d'un bon repas. On l'a vu, le Nutri-Score est un outil qui s'appuie sur des données scientifiques solides, conçues pour orienter les choix alimentaires vers les produits jugés meilleurs pour la santé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fait l'unanimité. Entre outils de santé publique, simplification discutable et levier marketing, le Nutri-Score est au cœur d'un débat politique et scientifique. Pour en discuter, on accueille aujourd'hui Célestine, qui défend le Nutri-Score comme une avancée utile, et Camille, qui met en lumière ses limites, voire ses risques.
Alors bonjour, moi c'est Célestine et du coup je suis pour le Nutri-Score. Alors pour moi le Nutri-Score c'est un outil de prévention face aux maladies chroniques, donc obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Donc il est fondé sur des travaux scientifiques validés comme ceux de l'équipe de Serge Herzberg. Les études montrent que le Nutri-Score améliore la compréhension des informations nutritionnelles, notamment chez les publics les plus vulnérables. Ce n'est pas juste un code couleur, c'est une stratégie de santé publique appuyée par la recherche.
Donc bonjour, moi c'est Camille et du coup je vais être critique du Nutri-Score. Et pour répondre à Célestine, pour moi c'est pas aussi simple. Le Nutri-Score, il prend pas en compte des éléments comme les additifs, le degré de transformation ou encore la durabilité environnementale par exemple. Il peut donc donner un A à un plat ultra transformé qui va contenir des édulcorants ou autres, et un C à des produits simples comme l'huile d'olive ou des fromages traditionnels. Comme le montrent Nabek et Hall, cela crée une tension entre logique scientifique de calcul et logique sociale de consommation. Le consommateur ne va pas manger des nutriments, il mange des aliments, et avec toute une culture derrière.
Camille, vous qui êtes Célestine, vous qui êtes pour du coup le Nutri-Score, que répondez-vous à cette critique sur le manque de prise en compte du degré de transformation ou de la naturalité des aliments?
Alors c'est vrai que c'est une critique qui est très fréquente, mais je trouve qu'elle est à nuancer. L'intégration du degré de transformation dans un indicateur aussi standardisé, il reste un défi scientifique. Les preuves sur les effets spécifiques des aliments ultra transformés sont encore débattues. Le Nutri-Score, il se base sur ce qui est mesurable de façon fiable aujourd'hui. Donc, par exemple, la teneur en sel, en sucre, en matière grasse, en fibres. C'est un outil perfectible, mais très opérationnel. Et comme le souligne Sarah Malol, mieux vaut un repère clair, même partiel, qu'une information absente ou illisible.
Bah, oui, mais sauf que cette partialité, comme vous avez pu le dire, elle peut être trompeuse. Benamouzig et Boubal rappellent que les dispositifs comme le Nutri-Score sont des technologies politiques. Il cadre les comportements et donne une apparence d'objectivité à des choix normatifs. Donc le risque, c'est que les consommateurs se reposent trop dessus, sans esprit critique en fait. On crée une illusion de maîtrise alors qu'il faudrait plutôt ouvrir un débat collectif sur ce que signifie vraiment bien manger au final.
On parle ici d'un outil scientifique, mais vous soulevez toutes les deux des enjeux de société, de pouvoir, de choix politiques. Camille, pouvez-vous développer ?
Bien sûr. Donc le Nutri-Score, c'est aussi un dispositif d'encadrement des comportements. Il va matérialiser une certaine vision de l'alimentation saine, fondée sur une approche nutritionnelle quantitative, si je puis dire. Mais cela invisibilise d'autres dimensions. Par exemple, on peut prendre en compte les pratiques culturelles, les conditions de production, les goûts ou encore même l'impact environnemental. C'est ce que Benamouzig appelle une réduction technocratique des enjeux alimentaires. Et surtout, il ne sort pas de nulle part. Les industriels y trouvent leur compte en reformulant juste assez leurs produits pour passer à un meilleur score.
Alors oui, certains industriels optimisent, mais c'est déjà un progrès. Sarah Malol, elle montre que plusieurs groupes agroalimentaires ont réduit les teneurs en sucre ou en gras pour améliorer leur Nutri-Score. Cela montre son pouvoir incitatif, sans qu'il soit contraignant. Et pour que les consommateurs fassent les choix plus éclairés, on ne peut pas attendre une révolution culturelle ou un cours de nutrition. Il faut des outils concrets, utilisables, immédiats.
Et concernant la dimension volontaire du Nutri-Score, est-ce que cela ne biaise pas la transparence, comme le soulignait Camille ?
Exactement. Aujourd'hui, seuls les fabricants qui ont un bon score l'affichent finalement. Nabeck et Hall parlent d'un effet du tri positif qui renforce les inégalités d'accès à l'information. Ceux qui auraient intérêt à ne pas l'afficher, bien sûr, ne le feront pas. Et cela nourrit la méfiance aussi. Pourquoi certains produits n'affichent-ils rien ? Cela montre bien que, même avec un outil objectif, soi-disant objectif encore une fois, les logiques économiques et politiques continuent d'agir.
Alors pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas proposer l'outil. Alors, il faudrait au contraire le rendre obligatoire à l'échelle européenne pour éviter ses effets pervers. Donc, des discussions sont en cours et la France, elle pousse dans ce sens. En attendant, c'est un levier de changement, même imparfait. Il aide à faire évoluer les représentations alimentaires.
C'est ce qui nous montre bien que le Nutri-Score est à la croisée de chemin entre science, politique et société. C'est un outil de santé publique, mais aussi un instrument de gouvernance. Il révèle ce qu'on attend d'un bon consommateur, mais aussi les tensions entre simplification et complexité, entre expertise scientifique et démocratie alimentaire. Merci à vous deux pour ces échanges très riches. Le Nutri-Score n'est ni parfait ni inutile. C'est un compromis, une tentative d'agir sur les comportements alimentaires à grande échelle. Vous écoutiez Les Échos de l'innovation, une émission de débat et de culture scientifique animée par les étudiants du cours Sciences et débats publics de l'Université de technologie de Compiègne sur la radio Graphite 99.9 FM. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les enjeux scientifiques, politiques et économiques autour du Nutri-Score, entre outils de santé publique, controverses techniques et jeux d'influence. Il soulève des questions essentielles sur notre rapport à l'alimentation. Merci à nos intervenants pour la richesse de leurs échanges, donc moi-même Zoé, Noah, Célestine et Camille. Côté musique, vous avez entendu Les Cornichons de Nino Ferrer et Burgers de Les Jones, une chanson humoristique réalisée en partenariat avec les produits laitiers. Le jingle et le générique de cette émission ont été composés par Joseph Brichet et Gabriel Jean-Jambre sous licence libre Creative Commons CC by SA. Et si vous souhaitez prolonger la réflexion, retrouvez une sélection d'articles scientifiques sur le Nutri-Score à l'adresse suivante https://nutriscore.blog/2022/09/23/bibliographie-référence/. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les échos de l'innovation. Merci.
Afin de terminer cette émission comme il se doit, on va vous passer une toute dernière musique.
Encore merci pour votre écoute et merci à tous les intervenants et à bientôt.